France Inter, franceinter.com.
Le sexe et le cerveau de l'instinct. André Suarez. Ans d'histoire. Depuis que sur les parois des grottes de Lascaux, nos plus lointains ancêtres ont commencé à représenter des sexes d'hommes et de femmes, l'histoire de l'érotisme est confondue avec celle de la sexualité. Tantôt libre comme dans l'Antiquité, tantôt persécuté comme au Moyen-Âge, pendant des siècles, l'érotisme a inspiré l'art, la littérature, mais aussi les foudres de son ennemi de toujours, la censure, qui avait recouvert d'un voile pudique les nus de Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine, jeté dans l'enfer des bibliothèques les romans libertins de Diderot et de Sade, accusé Flaubert et Baudelaire de pornographie et surveillé au cinéma la profondeur des décolletés d'Ava Gardner, de Jane Russell et de Brigitte Bardot. Jusqu'à ce que tous les verrous sautent et que plus personne ne soit aujourd'hui choqué par la peinture du sexe d'une femme que Courbet n'aurait jamais pu exposer de son vivant, ou par ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les chaînes cryptées, sur Internet, ou dans ce festival de l'érotisme, inauguré il y a quelques années à Paris, France Inter, le 14 février 1986.
Depuis 4 ans, l'érotisme a son festival. Héro 86 se veut la vitrine sensuelle de nos rapports intimes à travers les âges depuis Adam et Ève. Héro 86, c'est aussi le festival du film masochiste, ainsi qu'une exposition d'œuvres inédites du dessinateur Albert Dubout. Le sexe est ainsi présent à travers la mode, la peinture, la photographie, l'édition, mais aussi la recherche.
Ça s'appelle un harnais de suspension, c'est-à-dire que le monsieur ou la dame l'enfile, et puis on peut la suspendre soit par les épaules, soit par le dos, soit par les côtés. Alors ça, c'est une cagoule complètement cloutée. Quand vous êtes dessous, dedans, le revers des clous fait vraiment l'impression... une impression physique et enfin, sensitive tout à fait spéciale et très excitante.
Pierre-Marc de Biasi, bonjour.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas si les harnais de suspension ou les cagoules cloutées du festival de l'érotisme il y a 20 ans, c'était de la pornographie ou de l'érotisme, deux mots qu'il ne faut pas confondre. Vous le rappelez dans une histoire de l'érotisme qui a été publiée chez Gallimard Découverte. Pas plus d'ailleurs qu'il ne faut confondre l'érotisme et la sexualité. C'est, dites-vous, ce qui distingue le mot de la chose.
Ben oui, la sexualité, c'est notre façon physique de vivre la relation au désir sexuel. Et l'érotisme, c'est l'art de la représentation de cette chose. C'est-à-dire, ce que je cherchais à suivre dans ce livre, c'est l'histoire assez insensée et complètement bouleversante de la manière dont, depuis les grottes, en gros, la culture de la représentation, qu'elle soit dessinée ou écrite, ou sculptée, ou photographiée, etc., la culture de la représentation a pris pour objet privilégié le désir sexuel. Mais en faisant quelque chose d'autre, c'est-à-dire en passant le seuil du spirituel, puisqu'on n'est plus dans le rapport physique, on est dans la représentation de ce rapport.
Alors la sexualité, c'est vieux comme le monde par définition. L'érotisme, c'est plus récent. Sa représentation qu'est l'érotisme est plus récent. Cela dit, c'est déjà très ancien. Vous évoquiez à l'instant les grottes de Lascaux. On voit également dans votre livre des sculptures de phallus d'il y a près de 4000 ans. Mmh. On voit des représentations érotiques également chez les Égyptiens de l'Antiquité ou encore chez les Grecs, où leur Alors là, l'érotisme, on le voit par exemple sur les dessins qui figurent sur des vases grecs, est représenté le plus simplement du monde. Et alors qu'on imagine toujours qu'au fond, l'histoire de l'érotisme, c'est une longue lutte pour la libération sexuelle à laquelle on serait arrivé aujourd'hui, pas du tout. On était plus libre à certains égards dans l'antiquité grecque qu'aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'antiquité polythéiste vit à l'heure où les dieux font l'amour. Donc, il n'y a aucune raison. Quand on fait l'amour, on fait honneur aux dieux. Et chez les Grecs, on le fait notamment dans les classes privilégiées, essentiellement parce qu'on appellerait aujourd'hui une relation homosexuelle. Mais pour les Grecs, l'homosexualité est tellement naturelle qu'ils n'ont pas de nom pour le dire. Vous voyez, Donc, alors, il ne faut pas se faire non plus une représentation complètement idyllique et sans souci de l'amour et de l'érotisme dans l'Antiquité. Il y avait bien entendu des règles, des contraintes. Il y avait notamment, à travers les relations érotiques, des rapports de pouvoir qui étaient en jeu. L'actif et le passif. Par exemple, il serait complètement honteux dans une relation homosexuelle grecque qu'un homme d'âge mûr prête sa bouche au plaisir d'un plus jeune, hein, parce que le contraire est parfaitement bien vu, mais c'est dans un rapport, au fond, de maître à disciple, quoi. Et ça traverse toute l'Antiquité.
On retrouve ça effectivement dans l'Antiquité romaine, qui reprend tout cela des Grecs et qui permettait à Octave, le futur empereur Auguste, d'être initié par des prostituées.
Va-t'en, va-t'en, c'est pas pour toi ici, c'est pas un bordel, un soldat ici.
Octave, chérie, tu as pénétré quelqu'un
Mère,
déjà?
Je t'en prie.
Il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes, c'est facile.
Mère, je
non,
peux pas.
Non, tu vas pénétrer quelqu'un aujourd'hui ou bien je brûle tous tes livres dans la cour.
Qu'est-ce qui ferait plaisir à ce jeune homme?
Il est buceau.
Oh, je suis sûre que nous avons ce qu'il faut. Celui-ci vient juste de débarquer.
Celle-ci, ça ira.
Égéria, va te préparer.
Alors, il n'y a pas plus de tabou dans l'Antiquité romaine que dans l'Antiquité grecque, on le voit. Et alors, il est important pour un aristocrate comme l'était Octave, même très jeune, de pénétrer, mais pas d'être pénétré.
Ah oui, c'est... Et d'ailleurs, enfin, Octave, finalement, au cours de sa vie, va tout tenter, hein, puisqu'il disait de lui-même qu'il était... qu'il était la maîtresse de tous les hommes et l'amant de toutes les femmes. Hein, donc. Mais c'est ce rapport de la pénétration à Rome, elle est à concevoir dans une sorte de mythe du phallus qui est complètement investi par la puissance romaine. C'est-à-dire que le phallus, c'est le signe de la puissance militaire, culturelle de Rome, et par conséquent, c'est quelque chose qui s'impose. À tel point que, par exemple, les questions... dans nos représentations actuelles, c'est totalement insensé. Par exemple, assujettir un enfant à son plaisir n'est pas du tout un problème si c'est un enfant d'esclave. C'est complètement social.
En tout cas, le sexe est véritablement pratiqué très librement. Il est également représenté. Toute la statuaire grecque ou romaine ne cache rigoureusement rien, pas plus que les peintures qu'on trouve, par exemple, sur les murs des anciens lupanars de Pompéi. Hein, tout est montré. En revanche, dès lors que l'on quitte l'Antiquité, dès qu'arrive le Moyen-Âge, alors là, il n'est plus du tout question... Pierre-Marc de Biasi, vous le rappelez, plus question du tout de représenter le sexe, et même le sexe n'est conçu, n'est admis que pour la procréation.
C'est-à-dire quand la secte qui venait d'Orient, la secte qui va faire un formidable succès, la secte chrétienne, en faisant d'ailleurs le succès de thèse qui était déjà un peu celle du stoïcisme, arrive à Rome et s'empare de l'idéologie de l'Empire, au point de devenir la religion officielle de l'Empire romain. Alors là, oui, on entre dans une période où un certain délire pousse les gens à la castration, à la fuite au désert, à l'abstinence absolue, qui va créer des générations de gens frigides et très malades.
Et on transforme même, d'ailleurs, la Bible, la Genèse, parle de l'arbre de la connaissance par lequel, qui était interdit à Adam et Ève et qui devient au fond l'arbre du péché avec oui. la pomme qu'aurait tendue Ève à Adam.
Ah ben oui, c'est essentiel.
Le péché,
hein.
c'est le sexe.
Ça, c'est pas les pères de l'Église. Eux, ils pensent que le péché d'Adam et Ève, c'est un péché d'orgueil. Ils ont voulu être aussi puissants que Dieu. Mais petit à petit, ça introduit l'idée que, au fond, c'est le désir et c'est la relation amoureuse qui a été la faute. Et finalement, c'est ce qui se construit comme une hypothèse absolument redoutable. L'idée que la faute est liée à la procréation. Donc c'est une maladie sexuellement transmissible.
Et cela, alors paradoxalement, au même moment où l'hindouisme ou encore l'islam célébraient l'amour et la sexualité très librement, comme dans ces mille et une nuits pendant lesquelles, au Xe siècle, eh bien, Scheherazade racontait des histoires salaces au calife de Bagdad.
Petit, approche, viens là. Observe bien et ne te trompe pas. Comment ça s'appelle, ça?
Dis-moi comment ça s'appelle.
Ça s'appelle l'herbe odorante des champs. Dis-moi, et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la grenade tendue. Alors dis-moi, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle l'auberge du bon accueil.
Ah oui, alors comment s'appelle ceci? Ça s'appelle le poulain qui broute l'herbe odorante des champs, qui mange la grenade fondue et qui passe la nuit dans l'auberge du bon accueil.
Alors les histoires que Scheherazade racontait au calife n'ont rien à voir avec aujourd'hui, vous le rappelez, l'islam radical qui interdit qu'on en parle, qu'on le représente. La sexualité était abordée également très librement pendant le Moyen-Âge par l'islam.
Ah bah, on peut dire même que le monothéisme islamique est de tous les monothéismes celui qui donne la plus grande place au plaisir physique dans le Coran, et d'ailleurs le prophète lui-même est capable d'honorer ses 9 femmes dans la même nuit, et nous dit dans le Coran que l'acte d'amour est à l'image de la création par Dieu du monde. Donc à chaque fois que vous faites l'amour, vous faites comme Dieu, c'est un hommage à Dieu. Alors évidemment, dans l'islam radical d'aujourd'hui, et puis du 11e, 12e siècle, il y en a eu, hein, des fous de ce type-là depuis le départ. Mais c'est très minoritaire. Il y a une vision qui correspond un petit peu à celle des moines chrétiens du 10e siècle, si vous voulez. C'est un refus, une castration, etc. Il reste que la religion musulmane est une religion ouverte au plaisir terrestre.
Alors c'est le cas aussi de l'hindouisme, avec à la même époque toujours, oui. Et même un peu avant, enfin de disons au 8e, au 8e siècle à peu près, le Kama Sutra, ou encore les personnages sculptés des temples de Khajuraho en Inde. C'est absolument extraordinaire parce que c'est vraiment de l'érotisme. Ça,
bah, c'est même, on peut dire, une déclinaison en sculpture de toutes les recettes pour faire l'amour dans toutes les positions, y compris les plus acrobatiques qui ne sont pratiquement offertes qu'aux dieux, parce qu'il faut être vraiment alors dans une forme physique hallucinante.
Je l'ai remarqué en regardant votre livre, Pierre-Marc de Biasi.
Voilà, certaines postures. Mais c'est bien l'idée, c'est-à-dire que les dieux sont à même de faire l'amour dans toutes les positions, et à l'homme, à celui qui va vénérer les dieux, d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce plaisir qui est notre lien le plus puissant à l'infini et à la divinité.
Alors ce n'était pas du tout l'avis des cardinaux du pape Jules II lorsqu'au début du XVIe siècle, eh bien, ils ont vu les personnages nus peints par Buonarroti, dit Michel-Ange, sur le plafond de la chapelle Sixtine.
À la vue de Dieu, dans la maison de sa gloire, spectacle obscène, honteux. Cet artiste tire son inspiration des Grecs qui glorifiaient la nudité. Il a transformé la chapelle de votre sainteté en un temple païen.
Eh bien, Buonarroti, qu'avez-vous à dire? Le livre de la Genèse dit que Noé était nu. Dois-je corriger les saintes écritures et lui passer un pantalon?
Vous profanez les écritures! Le nu n'est pas un sujet convenable en peinture!
Alors Dieu lui-même est un profanateur, c'est lui qui a créé l'homme à sa propre image.
Blasphémateur!
Il a créé l'homme avec fierté et sans honte. Et ce sont les prêtres qui ont inventé l'opprobre. Je peindrai l'homme tel que Dieu l'a fait, dans la gloire de sa nudité.
Alors ce n'est pas du tout un chant grégorien qu'on aurait pu entendre au Vatican à l'époque de Michel-Ange, mais une chanson gaillarde, comme on l'entend, on ne comprend pas très bien, je vous dis ce qu'elle dit. Ramenez-moi la cheminée, ramenez-moi, ramenez-la moi haut et bas, une dame la matinée, ramenez-moi ma cheminée, rendue folle par la chaleur, etc. etc. Dites-moi, c'est vraiment le début de la Renaissance. C'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, il y a une beaucoup plus grande tolérance dans le domaine sexuel et donc de sa représentation érotique. D'ailleurs, la preuve, c'est le pape Jules II qui a commandé à Michel-Ange ce fameux plafond de la Sixtine, même si les cardinaux n'étaient pas d'accord. Alors, j'ai remarqué, en regardant l'illustration de votre livre, Pierre-Marc de Biasi, qu'il y avait effectivement, il n'y avait pas que des nus sur la chapelle. Il y avait vraiment de l'érotisme.
Ah ben oui, il y a même de la provocation, c'est absolument clair, de la part de Michel-Ange. J'ai fait un gros plan sur, par exemple, le visage d'Ève dans la partie de la fresque qui correspond à ce qui précède juste la chute, quoi. Quand le serpent tend à Ève la pomme, eh bien, en fait, Ève se trouve entre les cuisses d'Adam, assise par terre. Elle a le visage tourné vers le serpent qui lui tend la pomme. Elle tient d'ailleurs la main du serpent, si on peut dire. Et il suffit qu'elle retourne le visage dans l'autre sens, et là, le sexe d'Adam dans la bouche, quoi. C'est véritablement une mise en scène folle. Mais vous savez, la Renaissance, et ça c'est tout à fait frappant, en 10 ans pratiquement, bouscule tous les tabous. Mais les tabous, ils avaient été bousculés par la culture populaire très profondément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que la période des moines, ce Moyen-Âge sombre, a été une période complètement nulle érotiquement, pas du tout. Les gens ont résisté, ils ont résisté par les chansons dont on avait un exemple tout à l'heure, qui n'est pas seulement de la Renaissance, c'est aussi des chansons et des fabliaux du Moyen-Âge. Tout ça tout d'un coup explose dans la peinture de la Renaissance, avec des textes hallucinants de nos plus grands poètes. La Pléiade crée par exemple la langue française en créant des textes érotiques hallucinants.
Alors écoutez, il y en a un, vraiment, on n'imagine pas une seconde que ça puisse être de Ronsard. C'est loin d'être mignonne, allons voir si la rose. C'est Ronsard parlant de Henri III, je cite, « Le roi, comme l'on dit, accole, baise et lèche, de ses poupins mignons le teint frais nuit et jour, eux, pour avoir argent, lui prêtent tour à tour, leur fessier rebondit et endure la brèche. » Et c'est Ronsard, hein, c'est pas...
Oui, oui. Ouais, c'est pas qu'il était contre l'homosexualité, c'est qu'il trouvait que le roi dépensait vraiment trop d'argent
avec
ses mignons.
Ouais, il parlait de Henri III.
Ouais. Ouais, mais il y a des poèmes très étonnants de Ronsard. Par exemple, un poème que je cite dans le texte et dans l'anthologie, où il compare véritablement le moment où on est à l'église, où on fait ses dévotions, et le moment où on est dans les draps, où on fait ses dévotions avec son amante. Mmh. Comme si c'était une religion, une nouvelle religion. Et alors, c'est ça qui est quand même très très frappant, c'est que cette libération, qui va d'ailleurs être suivie par un coup près sévère, hein, celui de la contre-réforme.
La fresque de Michel-Ange a été recouverte pudiquement d'un certain nombre de voiles. On a demandé à un peintre que vous citez, qui s'appelle Daniele de Volterra.
Qu'on a appelé le braghetto, c'est-à-dire la grosse culotte, parce que c'était sa profession.
D'où vient le mot braguette d'ailleurs, hein, je crois, c'est ça.
Oui.
Alors, bon, il y a quand même une assez grande liberté. Alors, il y a d'autres peintres, hein, parce qu'il n'y a pas que Michel-Ange. Il y a Léonard de Vinci, il y a le Titien, il y a une Vénus de Titien qui manifestement éprouve un très grand plaisir toute seule. C'est assez extraordinaire quand même, cette énorme liberté, et qui va persister un peu clandestinement ensuite au XVIIe siècle. L'âge classique, vous dites, c'est quand même un siècle qui réprime, là encore, l'érotisme.
Il faut comprendre que la chrétienté a été brisée en deux par le schisme, que les protestants ont développé l'hypothèse que Rome était totalement pervertie, que tout le catholicisme romain était une débauche complète. Donc, on a eu un phénomène qu'on a appelé la contre-réforme, qui est, de la part de la chrétienté, de la catholique, la nécessité de devenir austère, et même plus austère encore que les protestants. Et ça va se traduire par une lutte acharnée. En fait, protestants et catholiques vont se coaliser pour faire de l'érotisme et du plaisir l'ennemi commun. Ça veut dire quand même, il faut y songer, des gens qui sont au bûcher, hein, au début du XVIIe siècle, 1625, on brûle en place de grève pour des écrits érotiques un écrivain. Et l'effet de sourdine classique, c'est-à-dire le côté façon de parler toujours discrète et style un tout petit peu comme ça caché, vient d'un danger réel, on risquait d'être emprisonné.
Alors, de même que Retour de balancier, le 18e a été alors celui un peu l'âge d'or de l'érotisme, et notamment avec les écrits libertins de l'abbé Prévost, de Crébillon, de Rétif de la Bretonne, ou encore de Laclos avec ses liaisons dangereuses.
Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage? Baste, que puis-je espérer de plus prestigieux?
Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure.
Au contraire, sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son Dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais. Car le mot trahison est de vos favoris.
Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là?
Alors, avec les liaisons dangereuses, Pierre-Marc de Biasi, l'érotisme n'est pas dans la description de l'acte sexuel, mais dans la cruauté, qu'on va retrouver, on va voir mental, moral, qu'on va même retrouver physiquement, alors avec peut-être l'apogée de l'érotisme et peut-être aussi son plus grand scandale à l'époque, qui a été évidemment Sade.
Oui, il faut comprendre que le XVIIIe siècle, de toute façon, l'éros du XVIIIe siècle, le libertin, n'a pas eu le choix. La lutte du pouvoir politique et religieux contre le plaisir était telle qu'il n'avait pas d'autre choix que de devenir à la fois libertin, incrédule et, à un certain moment, révolutionnaire. Ça prend aujourd'hui une coloration assez étrange, parce qu'on oublie un petit peu que la cible, c'était la religion, c'était le clergé. Par exemple, Toussade est écrit véritablement pour détruire l'ordre établi. Hein. Et dans des conditions, il y a plusieurs textes qui sont donnés dans l'anthologie du livre, qui sont, selon les cas, des textes plutôt amusants, très transgressifs. Et puis chez Sade, parfois, par exemple dans les 120 journées de Sodome, des textes totalement insupportables. C'est-à-dire que vous les relisez, je les ai relus évidemment attentivement pour ce livre, vous en sortez absolument avec la nausée quand même.
Alors c'est peut-être ce qui explique aussi le retour de bâton à nouveau, comme au XVIIe siècle, le XIXe siècle, ça va être la morale bourgeoise, des interdits, on ne peut se défouler que dans les maisons de tolérance, mais alors on condamne Flaubert et Baudelaire pour pornographie, Wilde est condamné pour homosexualité, on réprime la masturbation, etc. C'est un siècle très rigoriste.
Oui, et c'est un siècle où il se passe quelque chose qui est tout à fait fondamental pour notre histoire à nous. C'est l'entrée de l'érotisme dans l'ère de la mécanisation, de la technique, et notamment l'arrivée, par exemple, de nouvelles techniques de représentation comme la photographie, qui change tout.
Pourquoi ?
Parce que ce qui avait fait très peur dans l'érotisme à partir de la presse à imprimer, c'était la capacité des textes érotiques à se multiplier par dizaines de milliers. Avec la peinture, vous êtes tranquille, vous faites un tableau érotique, ça va chez une personne, mais vous faites une photographie, vous la tirez à 1000, 10 000, 100 000 exemplaires. Et tout d'un coup, si vous voulez, la censure bourgeoise va avoir en face d'elle des moyens complètement nouveaux pour l'érotisme de se multiplier. Mais en se multipliant, et c'est ça qui est tout à fait fascinant, l'érotisme change de sens. Hein. La photographie est inventée en 1830. En 1832 apparaît le mot pornographie. Photographie, pornographie. Ce sont deux mots qui sont quasiment contemporains, et pour une raison très sérieuse, qui informe ce qu'on doit penser aujourd'hui de notre temps, tout technique, tout communicationnel, tout pixel. C'est que vraisemblablement, d'un côté l'art, de l'autre la technique, d'un côté l'érotisme, de l'autre, la pornographie.
Et puis avec le cinéma, ce sera encore pire. Vous vous rappelez ce code Hays qui interdisait les baisers trop longs au cinéma, qui surveillait aussi le décolleté des actrices et qui ne distingue pas l'érotisme de la pornographie, pas plus d'ailleurs que ne le faisait en 1956 les censeurs du film « Et Dieu créa la femme » où Vadim déshabillait Brigitte Bardot.
Vous avez des pieds de marquise.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. Je suis une croque de diamant.
Avec cette bouche-là, tu peux avoir ce que tu veux.
Bonjour, monsieur.
Mes hommages, madame.
Ça fait une demi-heure que tu devrais être à la librairie. Naturellement, tu préfères te montrer nue devant des hommes, dévergondée.
Mais c'est pas un danger, l'érotisme.
Brigitte Bardot.
À mon avis, c'est pas du tout un danger. C'est très bien, l'érotisme. Mais il faut pas que ça devienne quelque chose de... Enfin, on met de l'érotisme sur le marché, mais comme on vend des légumes au marché, enfin, c'est pas possible. C'est beaucoup plus beau que ça, l'érotisme.
C'est une source d'inspiration qui est assez large, l'érotisme.
Roger Vadim.
On s'aperçoit qu'avant l'usage de l'appareil de photo et de la caméra, on ne confondait jamais érotisme et pornographie. Une statue était faite par un homme qui savait travailler la matière. Une peinture était quelque chose qui était fait par quelqu'un qui savait manier la couleur. Et puis c'était fait par des gens qui étaient inspirés. Donc, forcément, qui ne pouvait pas tomber dans la pornographie. Car c'est ça la seule différence entre la pornographie et l'érotisme. C'est la différence entre la vision d'un créateur et une image plate et agressive.
Tu es tout jolie, mes fesses.
Oui. Très.
Et mes sœurs, tu les aimes?
Un extrait célébrissime du Mépris de Godard. L'érotisme et la pornographie, on a entendu Vadim faire la différence. Vous-même, dans votre livre, Pierre-Marc de Biasi, vous dites qu'au fond, les deux ennemis de l'érotisme, c'est d'un côté la censure, de l'autre la pornographie.
Oui, et je crois qu'ils sont alliés. Et je crois que c'est pour ça que mon livre, d'une certaine façon, est écrit un petit peu contre les sectateurs de l'effroi, Jean Bataille, etc., les sadophiles, etc., parce que je crois qu'il y a une alliance objective entre le censeur, le lanceur de fatwa ou le
néoconservateur,
américain et le pédophile, le criminel, etc. Sur cette différence entre érotisme et pornographie, je pense qu'il y a véritablement aujourd'hui à construire la valeur érotique contre la pornographie. Et il faut bien comprendre que c'est une affaire avant tout de rythme. La pornographie, c'est tout de suite. C'est le rythme consumériste, c'est le rythme du tout technique, tout communicationnel.
Donne-moi avec des moyens énormes,
voilà, c'est-à-dire Internet. Et une mise au service du désir humain, du marché. Et c'est véritablement... l'ennemi. Hein. On a les deux figures. On a le barbu lanceur de fatwa et qui va rallumer les bûchers. Ça ne va pas traîner. Et puis, vous avez le pouce à jouir comme ça, pixelisé, qui vous dit « Mais comment, tu n'as pas eu ton orgasme aujourd'hui ? Mais ça va pas, c'est pas possible. »
Merci, Pierre-Marc de Biasi. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire de l'érotisme, de l'Olympe au cybersexe » publié chez Gallimard dans la collection Découverte. Un livre qui n'est pas destiné au jeune public, précise l'éditeur. À lire également, c'est à cause des reproductions, hein. À lire également L'harmonie des plaisirs d'Alain Corbin qui vient de paraître aux éditions Perrin. À voir enfin l'exposition L'Enfer de la bibliothèque, Héros au secret, à la Bibliothèque nationale de France, au site François Mitterrand jusqu'au 2 mars. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Rome, une série de Bruno Heller édité par Canal+, Les Mille et Une Nuits de Pier Paolo Pasolini, disponible en DVD chez Gaumont, L'Extase et l'Agonie de Carol Reed, édité en DVD par la 20th Century Fox, Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears aux éditions Warner Bros, et Dieu créa la femme de Roger Vadim chez René Château Vidéo, et enfin Le Mépris de Jean-Luc Godard, édité par Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Alain Gadan et Arnaud Caillé. Documentation et archivina, Clarisse Le Gardien, Anne-Cécile Perrin et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Kobilac.